Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 19 décembre 2025, jour des quatre sorcières aujourd'hui avec la clôture mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle de tous les produits dérivés de type futures, options, etc. Donc on a eu pas mal de volatilité sur cette semaine sur le marché crypto, c'est peu dire, avec un BTC qui en journalier pouvait nous faire des pumps de, on va dire, 90 à 94 000 dollars, retomber tout aussi sec autour de 86-87 et aujourd'hui, on est en train de se stabiliser à 88. Un Ether qui continue malgré tout, plus 4% sur les dernières 24 heures, d'essayer de se raccrocher à cette zone des 2900 à 3000 dollars. On a plus 10% sur Bitcoin Cash, on a plus 4% sur Zcash, également plus 2% pour Sui et Avalanche, 5% pour World Liberty Financial, 5% pour Canton. AAV également qui repasse dans le vert à la 30e place, 2,65 milliards de capitalisation à plus 3%, et on tombe donc autour du top 50 avec Ucoin, Skyl, Warcoin qui sont dans le vert et en clôture pour le top 60 entre Quant, Midnight, Arbitrum, Official, Trump, Algorand et Nexo qui sont autour du milliard symbolique de capitalisation, sachant que c'est d'ores et déjà fait. On a Atom Cosmos qui s'est fait sortir de ce top 60. Au niveau des news, la Warner Bros qui rejette l'offre de Paramount autour de 108 milliards de dollars puisqu'il y avait eu une surenchère par rapport à l'offre de Netflix qui était composée autour de 72 milliards. Donc le groupe privilégie l'accord de 72 contre 108 de la Paramount pour avoir un peu plus de flexibilité et surtout ils ont peut-être un peu plus confiance de ce qu'en feront tout simplement Netflix par la suite. Amazon et OpenAI, avec Amazon qui souhaite investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, l'objectif avoir une version entreprise de ChatGPT. Lors d'une conférence hier, donc c'était avant-hier, du CEO de Coinbase, Brian Armstrong, il a annoncé plusieurs produits à venir sur la plateforme, possibilité de trader directement les actions, les marchés prédictifs comme Polymarket, les DEX assets et également la possibilité d'émettre son propre stablecoin d'entreprise directement backé un pour un par Coinbase eux-mêmes. Cela permettra entre autres de fédérer autour d'une marque ou d'un écosystème à plus petite échelle et de faire gagner des récompenses plus la compatibilité interchain. Également, dernier point et pas des moindres, il lance Coinbase Tokenize afin de permettre aux institutions de lancer n'importe quelle forme d'assets on-chain tout en bénéficiant du cadre réglementé de Coinbase et de la protection qu'ils offrent. En 2026, Coinbase devrait être placé sous ce signe de la super app qui avait également, rappelons-le, il y a quelques mois déjà racheté la plateforme de financement participatif Echo pour plus de 300 millions de dollars auprès de la personnalité publique et entrepreneur Kobe. Le média de l'investisseur titré Kering qui cherche à réduire ses coûts et renflouer en vendant certains de ses actifs immobiliers. Un co-investissement a été réalisé avec Ardian sur un immeuble situé à New York. Kering va empocher la modeste somme de près de 700 millions de dollars. Le Palladium avec Axel Kibar qui a atteint la target technique des 1655 précisément. Donc là aussi, on a quelque chose qui s'est passé hein, du côté à la fois du platine, du Palladium, du cuivre. En ce moment, tous les réseaux sociaux n'ont que Dieu pour à la fois l'or mais surtout le silver, l'argent qui s'est pas mal réveillé. Mais c'est vrai que quand on fait un pas de côté comme d'habitude et qu'on regarde tous les métaux précieux, eh bien il y avait des petites séances de rattrapage. Goku qui titrait « Si MSCI retire les sociétés de trésorerie d'actifs crypto de son indice, les 39 sociétés concernées pourraient faire face à environ 10 à 15 milliards de dollars d'exode passive selon Bitcoin for Corporation. JP Morgan estime que Strategy pourrait à elle seule subir des exodes d'environ 2,8 milliards de dollars, ce qui représenterait environ 75% du market cap impacté. » Donc ça aujourd'hui c'est un peu notre signe noir au niveau du marché crypto. Est-ce qu'un jour Strategy prendra tellement le bouillon que derrière ça les obligera à vendre des bitcoins, entretenant un peu ce cercle et cette spirale infernale? Loris Dalio, pour 92% des investisseurs européens qui parient sur une hausse du marché en Europe sur les 12 prochains mois. Donc c'est vrai que même quand on regarde que ça soit pour l'Europe ou les marchés émergents, bah, les super banques américaines ont l'air assez positives pour la suite, tandis qu'on a un S&P 500 pour les États-Unis qui est potentiellement en train de nous faire un double top avec un canal parallèle ascendant très bien marqué. Et donc si on revenait courant 2026 sur le bas de ce canal, on serait sous les 5500 points. Ça nous ferait bel et bien cette descente à date d'une vingtaine de pourcents, ça n'est pas rien. On clôturera avec deux infos donc toutes fraîches avec l'euro numérique qui est prêt selon la BCE qui affirme avoir terminé tous les travaux techniques pour lancer l'euro numérique. Il dépend maintenant de l'approbation politique des législateurs européens. Selon eux, ils ils ont fini leur partie du travail. Et donc, une information qui, pour l'instant, pour les marchés, pourra avoir toute son importance, bien entendu, c'est la décision historique de la Bank of Japan qui relève son taux directeur de 25 points de base à 0,75, plus haut niveau connu depuis 1995, et qui laisse entendre que d'autres hausses sont possibles si le scénario économique se déroule comme prévu. Donc, vous avez un long post explicatif ici des impacts que ça pourrait avoir sur Fineco, bien entendu. D'ailleurs, tous les jours, il fait des trades comme ça qui sont toujours très précis et techniques. C'est très cool d'avoir ce genre de personnage qui nous partage autant d'informations. D'un autre côté, les États-Unis, hier, ont eu, ou avant-hier, les chiffres de l'inflation qui ont été très bons. On devait être quelque chose à 0,3 sous le consensus attendu. Enfin bref, on a une inflation qui semble maîtrisée, voire qui recule très largement pour les États-Unis. Donc en ce moment, on a certes une économie américaine qui a l'air d'être fortement résiliente et il faudra quand même observer le marché de l'emploi et tout ce qui s'ensuit étape après étape et surtout le comportement de la Fed à partir du moment où on ne va plus avoir Jérôme Powell et où potentiellement c'est Trump qui est en train de placer ses valets et qui va essayer de dicter la conduite à tenir de la Fed en 2026. Ça aussi, bon, je ne suis pas sûr que les marchés apprécient, mais on verra en temps utile. Et là, pour la Banque du Japon, donc, bah, ça remet à nouveau sur la table tout ce qui s'était passé le fameux 5 août 2024 au moment où les marchés ont véritablement pris peur à l'époque avec ce fameux yen carry trade. Pendant des années, pour ne pas dire une décennie, tout le monde empruntait à taux zéro du côté du Japon en yen. Ils allaient convertir ça sur le marché de change en dollars ou en tout ce que vous voulez et bien entendu ça a contribué très certainement à alimenter bon nombre de bulles. Aujourd'hui il faut passer à la caisse. On est un an et demi plus tard, très certainement que beaucoup de positions ont été débouclées en bonne et due forme et que ça ne créera pas un raz-de-marée comme on a pu l'avoir au moment où finalement on avait peur que les dominos tombent d'un seul coup, ce fameux 5 août 2024. Mais ça peut avoir quand même un impact, je pense, au temps long qui ne sera pas négligeable puisque aujourd'hui, comme vous le savez, ce que recherchent les marchés, bien, c'est avant tout la liquidité et c'est pour ça que notamment du côté des États-Unis, ils n'arrêtent pas de presser ce bon vieux Jérôme Powell de baisser les taux pour continuer comme ça à pouvoir par la suite avoir du crédit, avoir de la consommation et avoir une économie qui tourne réellement plutôt que juste portée par des investissements ou des co-investissements circulaires au niveau de l'IA. On va aller très vite pour l'analyse technique puisque ça n'a guère bougé depuis la dernière fois, 2930 milliards depuis un mois, on n'arrive pas à repasser sous les 3000 milliards malheureusement. Ceci étant dit, le momentum du MACD est en descente par rapport aux ventes fortes qu'on a eues ces temps-ci. Après, d'un point de vue de ceux qui comptent les vagues, etc., les éliotistes, je ne suis pas du tout dans ce genre de mood, tout comme je regarde très très peu souvent le système Ichimoku, mais si on y voit une correction en trois vagues, en ABC, comme ça l'a souvent fait au niveau des corrections macro, tout simplement, on pourrait être donc, peu importe qu'on revoie les 100 000 début 2026 ou pas, c'est pas véritablement là la question, mais quelque part à mi-chemin de cette grande correction de bear market, n'en déplaise à certains. Dès qu'on dit le mot de bear market, il y a tout le monde qui se met les mains sur la tête et qui commence à flipper. Mais c'est pas un mot grossier, c'est pas un mot qu'il ne faut pas dire comme Voldemort, c'est quelque chose qui tous les 4 ans arrive dans le marché crypto. Alors peut-être que cette fois sera différente, peut-être que le cycle est fini, peut-être que si, peut-être que là, mais tant que ça n'est pas arrivé, bien entendu, on essaie un minimum de se placer du côté des statistiques, bien que je le consens avec vous, depuis 2024-2025, les statistiques elles nous ont pas mal dessus. Là, je suis assez d'accord avec ça. En attendant donc ces fameux 3000 milliards, eh bien, on a le Bitcoin qui est autour de 88 000, avec pareil un mois vraiment où on a fait le yo-yo, basiquement, mis à part si on fait abstraction de cette mâche à 80 000, mais on est entre 84-85 et autour de 94-95, donc ça nous fait une petite amplitude de 10 000 dollars. Les traders de range doivent se régaler, mais les investisseurs long terme détestent ce genre de phase d'indécision. Et donc ici, bah, on est toujours sur une moyenne mobile 50 en hebdo qui est autour de 102 000. Ça correspond aux fameuses data on-chain qu'on avait vu la dernière fois, tout comme entre 80 83 000 ici, c'est le bas du fameux true min price, si je dis pas de bêtises. Et pour du long terme, ça n'a toujours pas changé, bien entendu. L'évolution se fera autour de la moyenne mobile 200 qui est aujourd'hui à 56 545 dollars précisément. C'est une moyenne mobile qui a été perdue au cours du cycle précédent, tandis que sur les deux cycles d'avant, ça n'avait pas été perdu. Donc on se met une petite box supplémentaire un peu plus bas au 0,786 de Fibo si jamais Saylor est en déroute, MSTR et vend des bitcoins pour avoir un prix final, si vraiment ça pue, comme on dit, autour de 40 à 45 000 dollars. Et si ça pue pas, eh bien déjà entre 55 et 60 000 dollars, ça nous fera une baisse d'environ 55% de souvenirs dans ces eaux-là. Et voilà, on sera tout à fait dans les clous d'un bear market super soft, j'ai envie de dire, puisque les fois précédentes, c'était 77, 85 et 89% de recul qu'avait offert le Bitcoin sur les trois cycles précédents. ETH, pareil, c'est assez inexploitable, si ce n'est que bah, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir passer sous les fameux 2008 approximativement. Le momentum MACD nous fait pareil que sur le crypto total et que sur Bitcoin. Donc, petit à petit, c'est en train de se tasser. La poussière est en train de retomber. Ce qui veut dire que potentiellement, bah, voilà, on aura peut-être un mois de janvier qui sera un peu plus positif. Mais là encore, une fois de plus, je me pose du côté des statistiques historiques et malheureusement l'année des midterms, le premier trimestre en général est le pire trimestre de l'année avec une fin de slash bear market qui pourrait avoir lieu entre septembre et octobre 2026, soit plus ou moins sur cette période justement où seront actés les midterms puisque de souvenir toujours c'est autour de novembre 2026. Donc pour ceux qui veulent un minimum jouer ce scénario là, vous pouvez vous le mettre dans un coin si dans tous les cas vous pensez qu'on va monter en 2026, et eh bien tant mieux, vous restez exposé tout simplement au marché. Si vous pensez que ça va se gâter, et eh bien vous avez cet horizon de temps à peu près de un an, un peu moins désormais, peut-être 9-10 mois, qui vous permettra de faire le DCA ou potentiellement de sniper les futurs points bas. Du côté des indices, on a le dollar qui essaie de tenir autour de 98,6, donc là aussi statu quo pour l'instant, mais voilà, on est quand même sur un dollar qui est en train de se poser, tandis que du côté du gold, on est venu chercher donc les points hauts autour de 4375 dollars l'once. Est-ce qu'il va avoir la force immédiatement? Eh bien, en ce moment, comme vous l'avez vu et un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est le silver qui est très vertical, qui est parabolique. Et à partir du moment où tout le monde est en train de vous en parler sur les réseaux sociaux, vous vous doutez bien de voilà ce qu'il vaut mieux faire ou ne pas faire, bien entendu. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est qu'entre vieux de la vieille sur la chaîne et que j'ai plus besoin de vous dire quand il vaut mieux acheter ou quand il vaut mieux vendre. Et dans tous les cas, ça n'a jamais été fait sur cette chaîne. On vous donne des pistes, on essaie de documenter aussi notre propre aventure, de vous donner les trucs qui fonctionnent, de vous donner les trucs qui ne fonctionnent pas, de vous dire les grosses bêtises à ne pas faire qui peuvent vous permettre, vous, de votre côté, de gagner des années de spéculation ou de non-perte financière quelque part. Et par la suite, voilà, on essaie chacun à sa façon de contribuer un petit peu à tout cet édifice. Le S&P 500, 6774, on a un double top quasi parfait. Est-ce que ça va dérouler à la baisse? Moyenne mobile 50 aujourd'hui à 6200 points. La 100 est autour de 5849. La 200 est autour de 5000 points. Et comme on l'a vu tout à l'heure pour les aficionados de ceux qui tracent des grands canals parallèles, on avait les 5500 points donc à venir chercher. Ça nous fait tout pile un moins 20%. Donc si on nous donne moins 20% sur le S&P en 2026, que le Bitcoin vient autour de 50 000 dans la foulée, etc. Franchement, ça sera le moment, je suppose, en tout cas d'un point de vue logique et purement statistique, de tirer nos cartouches à ce moment précis. Et c'est pour ça que rien ne sert de courir actuellement. Du côté des altcoins sur le marché crypto, il se passe absolument rien. Alors, je suis aussi d'accord avec le fait que c'est quand en apparence, il ne se passe plus rien, que c'est souvent le moment de s'y intéresser. Mais voilà, vous savez à quel point aussi les alts, ça a été difficile sur ce cycle et que peut-être d'ici le cycle suivant, ça continuera d'enfoncer ce clou-là, que bah, la liquidité n'ira pas partout et désormais ne fera pas tout à n'importe quoi, comme ça a pu le faire sur des cycles particuliers, enfin à retail finalement, entre 2017 et 2021. Tesla qui vient au contact et qui dépasse très légèrement son ancienne ATH, mais qui pour l'instant, voilà, en pré-market 489, on va faire un petit gap, on va voir ce que ça va donner. Ceci étant dit, est-ce qu'il valait mieux pas rentrer quand on était en mars 2025 à 220 $ et aujourd'hui, est-ce qu'on tente les 500 $ pour voilà, aller grappiller quelques dizaines de dollars supplémentaires? Comme d'habitude, en gestion du risque, c'est un peu crispant, ce genre de sortie de grands rectangles long terme. Côté action française, on a Hermès qui est dans une petite box depuis l'impulsion qu'il y avait eu en juillet 2025. Donc ça, ça me plaît plutôt pas mal. Je ne suis pas encore passé à la caisse de mon côté, mais ça pourrait être intéressant à surveiller du côté de Hermès. Donc pour la suite, l'extraction de ce range qui se ferait avec un point bas bas sous les 2000 euros, un point haut autour de 2275, donc c'est quand même assez resserré. Les moyennes mobiles qui sont en train de se mettre à plat, la 200 en secours avec un point long terme qui pourrait se trouver autour de 1900 euros, puisqu'on est bel et bien en euros. Donc finalement, là, on a une gestion du risque qui est au poil. On peut se mettre le stop quelque part sous les 1900 euros ici avec la moyenne mobile 200. Les plus aventureux iraient chercher du 1655 si vraiment on a les reins solides. Et ici, à partir du cours, ne serait-ce que revenir à l'ATH, ça nous fait environ 38-39% de performance pour venir chercher les quasi 3000 euros. Donc comme d'habitude, le secteur du luxe, c'est assez difficile à naviguer. On a certes des LVMH, etc., qui au long terme devraient très bien se tenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notamment porté par une Chine qui consomme pas assez, qui est vraiment sur les stigmates de ce qu'il y a eu par rapport au Covid et qui sont plutôt en mode économie plutôt que de dépenser malgré un stimulus, je pense que ça pèse très largement sur ce secteur du luxe et jusqu'au secteur français, bien entendu. Du côté des Altes, toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'avais peut-être Uniswap, je vais le passer un instant quand même, qui consolide depuis très longtemps autour de 5$, on va voir ça, et j'avais Sui qui est aujourd'hui en positif de 6%, mais on voit qu'on a eu des cassures structurelles long terme. On était dans cette grande figure ici, dans ce qui pourrait s'apparenter à un grand triangle, et par la suite on l'a cassé par le bas, on perd cette zone relativement clé autour des 2$ pour Sui, et aujourd'hui on est un peu au milieu de nulle part. Donc comme d'habitude, il y aura très certainement des opportunités sur les bons dossiers, les gros dossiers, les belles capitalisations, certainement pas les Atom Cosmos qui sont en train de se faire complètement étrier sur le grill des enfers, j'ai envie de dire. Mais il faut surveiller ceux qui, lors de bear market, gardent leur santé, leur force, un peu comme le BNB finalement au cycle précédent. Alors je suis pas en train de dire que le BNB c'est trop génial, puisque là aussi il y a beaucoup de discours qui pourraient être tirés de la façon dont c'est centralisé un peu quelque part, et tout ce qui peut jouer du côté de Binance pour maintenir aussi le BNB, et certains diront artificiellement, je rentrerai pas là-dedans. Mais en attendant, pour le côté DeFi de la force, eh bien ça fait pas mal de temps que Uniswap est autour de 5$. On a un support long terme qui est autour de 4, donc finalement pareil pour ceux qui voudraient couper si jamais ça se gâte, ou payer plus tard si Bitcoin déroule à la baisse, bien entendu ça sera plutôt autour de 4$. Mais là en l'état, en tout cas contre le dollar, parce que contre Bitcoin ça doit pas être super fameux non plus, le graphique nous fait état d'un actif qui est en train plutôt de latéraliser que de nous faire point bas sur point bas, et ça c'est quelque chose déjà d'un peu plus positif par rapport à bon nombre de choses qu'on a pu observer sur ce cycle. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez sur ma liste du bord ici, j'ai à peu près les majors ou quelques trucs que voilà, j'avais encore en portefeuille juste pour les observer sur des fonds de portefeuille, puisque aujourd'hui de mon côté j'ai quasiment plus rien en vrai crypto, je suis plutôt directement exposé du côté des ETF, et c'est une manière de faire qui pour ma part me convient bien mieux. Mais pour ceux qui continuent voilà, d'avoir beaucoup d'altcoin en self-custody, Rabi, MetaMask, etc. D'ailleurs, MetaMask qui aujourd'hui permet d'avoir du Bitcoin, c'est plutôt positif aussi. Toujours est-il, ce qu'on va rechercher en 2026 au niveau des alts, c'est bien entendu des protocoles comme Uniswap, comme AAV, comme je sais pas, bon nombre d'autres. J'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête malheureusement, mais qui génèrent des frais sur lesquels le UNI ou le AAV, on va avoir à la fois peut-être du buyback, à la fois les détenteurs de tokens qui vont être rémunérés en fonction des fees qui sont collectés par la plateforme, et une plateforme qui tourne, c'est-à-dire une plateforme qui génère du revenu positif. Et si possible, comme on jauge d'une entreprise avec la croissance, avec les chiffres en fin d'année, les bilans, quand on applique le fameux PER, Price Earning Ratio, du côté des actions de bourse traditionnelle, de plus en plus, et écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, on va jauger de la pertinence d'un projet crypto de la façon dont il pourrait se comporter si on le comparait directement à de l'equity, c'est-à-dire à des actions ou à une société en tant que telle. Et peu importe qu'on parle de Uniswap ou qu'on parle de AAV, c'est exactement le bisbille qu'il y a en ce moment du côté de AAV. Est-ce que AAV a envie d'être considéré comme une société avec un head-off, avec une IP détenue par une entité centralisée, ou est-ce qu'on mise tout pour le tout sur la DAO, full décentralisée, personne n'a le droit de rien faire ou de ne rien dire sans avoir ce truc consultatif du côté de la DAO avec un vote purement et simplement communautaire? On en est pile là, à ce moment de l'histoire, et j'espère vivement, bien entendu, qu'on trouvera la meilleure des résolutions pour nous apporter comme ça l'achat des projets crypto, qui peut-être aujourd'hui sont encore faiblement valorisés par rapport à ce qu'ils représentent et ce qu'ils détiennent en TVL, c'est-à-dire Total Value Locked, tout l'argent qui est dans le protocole. On peut se dire qu'aujourd'hui, un AAV, par rapport à ce qu'ils détiennent, est sous-coté en ne pesant que 2,5 milliards. Mais c'est typiquement ce de quoi est en train de jauger le marché, les institutionnels et tout le reste, de est-ce qu'on a envie de parier notre chemise sur le token de AAV, alors qu'on ne sait pas aujourd'hui, quand on détient du AAV, ce qu'on représente quelque part en termes de gouvernance, en termes de ce à quoi on aura droit plus tard. Et surtout, est-ce que ça continuera d'être le côté purement décentralisé qui fait foi, ou est-ce qu'on rentre un peu plus dans les clous, en effet, de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une société du Nasdaq technologique ou financière, peu importe, avec des régulations et des réglementations qui très certainement seraient un peu différentes. Et là aussi, ça risque d'alimenter bon nombre de débats. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très certainement que lundi prochain. Continuez d'être prudent et prenez le temps, si vous avez des vacances autour des fêtes de fin d'année, de vous poser, comme je dis souvent, avec un papier et un stylo et de noter sur votre petit cahier quel plan vous vous faites pour 2026. Si ça part positivement, tant mieux. Et comment je fais si ça part positivement? Quel horizon je sors? Combien de pourcentage? Combien de gains? Est-ce que je paye ma flat tax si je suis en France, ou est-ce que je suis dans un pays où je n'ai pas de contraintes d'un point de vue fiscal? Et de l'autre côté, si ça se passe pas bien, si le marché déroule à la baisse et qu'on a un Bitcoin qui visite autour de 50, 60 000 dollars, voire 40 000, comment je réagis dans ce cas-là? Est-ce que j'ai du cash de ce côté? Est-ce que je vais l'investir et à quel moment? Voilà. À partir du moment où vous serez posé ces simples questions, eh bien, quand on vous dira bear market, vous n'aurez plus le ravioli au courbouillon en ébullition. Vous vous direz, ok, bah, j'ai un plan pour tout ce qui pourrait se passer potentiellement. Et finalement, c'est que deux plans, un plan positif et un plan un peu plus pessimiste. Mais voilà, à partir du moment où vous l'avez traité de votre côté, vous verrez que vous gagnerez en sérénité et que ça se passera infiniment mieux. Très bonne journée et à lundi. Ciao, ciao.